Les évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, se disent préoccupés par l'état actuel du processus électoral en RDC. Cette préoccupation est contenue dans un plaidoyer que la SENCO a fait lundi dernier auprès d'Edgar Lungu, président de la Zambie et chairman de la Troïka de la SADC, sur la politique, la sécurité et la défense. Parmi les inquiétudes, les évêques relèvent notamment l'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral sans empreinte digitale et aussi les dénonciations par une partie de la classe politique et de la société civile de la manipulation de la CENI et des cours et tribunaux par le pouvoir en place. Comment analyser la démarche de la SENCO? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. l'abbé Donatien Chollet. Bonsoir. Monsieur l'abbé Chollet, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Professeur Sambo Kolombe, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes député national de l'opposition et cadre de la plateforme Ensemble pour le changement. Docteur Didi Manara, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue les auditeurs de la radio Capi.
Merci. Vous êtes député national de la majorité présidentielle et secrétaire national du PPRD, chargé du processus électoral et des relations avec les institutions d'appui à la démocratie. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Tête à tête lundi dernier à Lusaka entre les évêques de la SENCO en tant que parrain de l'accord de la Saint-Sylvestre et le président zambien Edgar Lungu en sa qualité de président de la Troïka de la SADC en charge de la politique, sécurité et défense. Au centre de leur entretien, l'évaluation du processus électoral en RDC. Dans un communiqué rendu public à l'issue de cet entretien, les évêques membres de la SENCO se disent préoccupés par l'état actuel du processus électoral. Les détails avec vous, Pascal Massirika.
Lors de cet entretien, les évêques catholiques venus de Kinshasa ont demandé au président Edgar Lungu d'accompagner les parties prenantes à trouver un consensus sur l'usage de la machine à voter ou recourir au bulletin papier les cas échéants. Ils plaident aussi pour la décrispation du climat politique en RDC. Si les questions soulevées ne sont pas réglées, ils redoutent des élections biaisées qui, d'après eux, risquent de faire basculer la RDC dans la violence, voire le chaos qui pourrait embraser la sous-région. Parmi les positive, les prélats saluent la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la plateforme électorale du pouvoir et la publication à Kinshasa par la CENI des listes provisoires des candidats. Rappelons que s'agissant des électeurs sans empreinte, la CENI a décidé de publier les listes des électeurs. Objectif, selon le vice-président Norbert Basengezi Katitima, répondre à la critique d'une partie de l'opposition sur l'existence de plusieurs millions d'électeurs fictifs contenus dans le fichier électoral.
Merci Pascal Massirika. Monsieur l'abbé Donatien Chollet, vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Quelle est l'opportunité de cette démarche de la SENCO, monsieur l'abbé?
Eh bien, vous savez que nous attendons les élections qui devraient mettre fin à la crise sociopolitique dans laquelle est plongé le pays. Il y a déjà un grand paquet fait, on a salué ce qui est positif, mais devant les préoccupations qui risquent de nous amener aux élections biaisées, les évêques en tant que pasteurs, par rapport à leur mission prophétique, ne peuvent que tout faire pour attirer l'attention des uns des autres, demander la contribution des uns des autres pour qu'on arrive à l'organisation des élections transparente, crédible, inclusive, qui mettra fin à la crise. Donc l'opportunité, c'est saisir la SADC, le président Lumbi et le président de la Troïka de la SADC en charge de la politique, la sécurité et la défense. Et si les choses marchent bien au Congo, ils seront en paix. Si ça ne marche pas bien, ils seront aussi affectés. Voilà pourquoi les évêques ont pensé aller les rencontrer et demander leur contribution afin d'arriver aux élections qui mettraient fin à la crise.
Monsieur l'abbé, vous avez reconnu qu'il y avait déjà un grand pas qui a été fait dans le processus électoral, mais qu'est-ce qui vous inquiète tant?
Eh bien, je crois que les choses sont clairement mentionnées dans le plaidoyer. Il y a le fait qu'on n'a pas de consensus sur la machine à l'utilisation, non, de la machine à voter. Les évêques ont déjà lancé un appel dans cette direction depuis longtemps. Ça nous expose à ne pas avoir les élections ou d'avoir vraiment un chaos. Imaginez le jour des élections, s'il y a une bonne partie de Congolais qui ne sont pas convaincus, qui vont pour casser ces machines-là. Qu'est-ce qui arrivera? Mais il y a quand même lieu de prévoir, de s'asseoir et de se mettre d'accord sur l'utilisation non de cette machine. Il y a le fait que beaucoup des acteurs majeurs de l'opposition qui ne vont pas prendre part à ces élections. Ce n'est pas une banalité.
Monsieur l'abbé Cholet ?
Oui, je vous écoute.
Alors, et donc, la SENCO craint simplement qu'il y ait un embrasement en contactant la SADEC. Qu'est-ce qu'on peut dire que la SENCO a épuisé tous les moyens de concertation en interne?
Eh bien, je crois que les évêques ne se sont jamais tués à l'interne. Ce qu'ils ont dit au niveau de la SADEC, ce ne sont pas de nouveautés. Ils continuent à crier dans l'espoir qu'ils vont se faire entendre, ils vont se faire comprendre.
Alors aujourd'hui, vous demandez la mise en application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qu'il représente encore cet accord aujourd'hui?
Eh bien, ce n'est pas la SENCO qui a dicté cet accord, c'est question de loyauté. Ce sont toutes les parties prenantes au dialogue qui ont signé cet accord. C'est question de les mettre intégralement en pratique. C'est question de parachever les mesures qui ont déjà qui ont été prises et dont une partie ont déjà été heureusement mises en pratique.
Monsieur l'abbé, il y a Lichiza Kulimushi Evariste, cet internaute qui nous écrit, qui dit « Quoi que fondée, la dénonciation de la SENCO ou la démarche de la SENCO est un coup d'épée dans l'eau, d'autant plus qu'elle s'est adressée aux personnalités membres de la SADEC qui a déjà validé l'utilisation de la machine à voter aux prochaines élections du 23 décembre, pourtant l'une des discordes au centre des obstacles majeurs. »
Eh bien, je suis surpris d'apprendre que les membres de SADEC ont validé cette machine. En tout cas, le message de la SENCO a été très bien reçu par le président Edgar Lungu, qui a dit qu'il travaillerait dans le sens de tendre ses plaidoyers au niveau de ses collègues de la SADEC. Bon, là, je crois la vérité que il y a un groupe, peut-être des gens de la SADEC, qui ont entendu un son de cloche. Maintenant, la SADEC entend les évêques qui ne sont pas intéressés par le pouvoir, qui n'ont aucun intérêt là-dedans, qui ne plaident que pour l'intérêt de la population. C'est quand même quelque chose à prendre au sérieux.
Alors, dans votre communiqué, M. l'abbé, vous évoquez aussi la manipulation de la CENI et des cours et tribunaux. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh bien, les évêques sont préoccupés par le fait qu'il y a beaucoup de Congolais qui voient une certaine manipulation dans certaines décisions qui sont en train d'être prises. Les évêques sont préoccupés par l'exclusion du processus électoral de quelques acteurs marginaux de l'opposition. Et nous sommes tous des intellectuels, les évêques ne sont pas n'importe qui, ils savent bien lire aussi les textes de la loi, ils savent aussi donner leur jugement sans se substituer à la loi.
Monsieur l'abbé Cholet, à ce niveau, oui, la SENCO a vu la SADEC en interne, presque toutes les voies de négociation ont été épuisées. Quelle serait la prochaine étape finalement?
Eh bien, écoutez, la SENCO fera tout ce qui est de son pouvoir. La SENCO, ce sont des évêques qui parlent. Les évêques sont des pasteurs et ils n'ont pas un plan militaire, ils n'ont pas un plan de violence. Et ils continueront à parler tant que ça sera nécessaire. Et s'ils ne sont pas écoutés, ben chacun assumera ses responsabilités devant Dieu, devant l'histoire, devant le peuple congolais.
Alors, par rapport à la libération des prisonniers politiques, au niveau de la SENCO, il y avait certaines démarches menées pour que soient effectivement libérées certaines personnalités emblématiques. À ce jour, où est-ce que vous en êtes?
Eh bien, justement, si les évêques revient là-dessus, c'est parce qu'il n'a pas de réponse satisfaisante. Le cas emblématique qui a été confié par les parties prenantes à la CENCO, c'est le cas de Moïse. C'est au moins ce cas-là que la CENCO maîtrise, parce qu'il y a une commission qui a été mise en place. Ben, la conclusion était claire, que c'était des choses montées de toutes pièces et il n'avait rien de consistant dedans. C'est une question de loyauté aussi.
Merci, M. l'abbé Chollet. Je reviens à vous tout à l'heure. Honorable Didi Manara, vous êtes député national de la majorité présidentielle, et secrétaire national du PPRD, chargé du processus électoral et des relations avec les institutions d'appui à la démocratie. Comment vous analysez cette démarche de la CENCO?
Merci beaucoup de la question, monsieur le journaliste. Je salue également monsieur l'abbé Donatien, ainsi que mon collègue professeur Bokolombe, ici présent. Je tiens d'abord à préciser que je suis moi-même chrétien catholique et j'ai beaucoup de respect à l'Église catholique ainsi que à tous nos évêques. Alors, pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, j'aimerais vous dire que la démarche effectuée par les évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, est tout à fait légitime. Si cette démarche est impartiale et vise à rassurer le peuple congolais pour un aboutissement heureux du processus électoral, qui du reste a atteint son point de non-retour, c'est une démarche à saluer. Parce que notre pays est, comme vous le savez, membre de cette organisation sous-régionale, qui est la SADC. Mais par contre, si cette démarche cache des sous-entendus malveillants, parce que comme vous le savez, et comme tous les Congolais le savent, que l'Église catholique, de temps en temps, sert des bras séculiers de l'opposition. Alors, nous allons nous inscrire en faux si cette démarche n'est pas correcte. D'ailleurs, comme vous le savez, la question électorale est intimement liée à la souveraineté de notre pays, à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous aurions vivement souhaité que cette question soit traitée en interne, entre Congolais, comme le dit notre Constitution.
Honorable Manara, quand vous faites allusion à certains sous-entendus malveillants, si jamais il y en avait, vous voulez parler de quoi?
Vous avez entendu, monsieur l'abbé Chollet, tout à l'heure. De temps en temps, il s'est présenté comme un prophète des malheurs, disant par exemple, il a donné un exemple, vous l'avez entendu, il dit, si par exemple les électeurs entraient dans les bureaux de vote et ils cassaient les machines. Mais est-ce que vraiment un prélat peut dire des choses comme ça? À la radio, qui est suivie par tous les Congolais? Ça, c'est, je crois que c'est une sorte d'irresponsabilité manifeste. Il n'y a personne qui peut dire des choses comme ça. Alors que nous savons que notre pays est en train d'évoluer vraiment dans un environnement qui doit être totalement sécurisé par tout le monde, y compris par l'Église catholique. Donc nous nous disons que cette démarche-là, si vraiment nos prélats sont corrects avec eux-mêmes, je crois que c'est une très bonne chose. Mais les Congolais attendent les élections et il n'y aura rien. Il n'y aura pas de caste machine à voter. Les Congolais veulent aller voter. Tous les Congolais veulent aller voter. Il suffit de voir les scores. Il y a 19 000 candidats aux élections provinciales. Il y a plus ou moins 15 000 aux élections des députés nationaux. Il y a une vingtaine de candidats présidents de la République. Alors qu'est-ce qu'on veut? Les Congolais veulent les élections. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de casse, monsieur le journaliste.
Alors la CENCO parle de certaines inquiétudes, relève certaines inquiétudes, notamment l'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral sans empreinte digitale, la faible mise en œuvre des mesures de décrispation de l'espace politique, il y a cette question de la manipulation de la CENI et des cours et tribunaux par le pouvoir en place, pour ne citer que cela à ce niveau, honorable. Pensez-vous que les Congolais veulent aller voter, comme vous le dites, malgré ces inquiétudes?
Bon, les inquiétudes sont là, effectivement, et les inquiétudes, on peut les voir partout, dans tous les systèmes électoraux du monde. N'oublions pas, vous savez qu'il y a eu une mission de l'OIF qui est arrivée en République démocratique du Congo pour auditer ce fichier électoral dont on parle ici. Alors, lorsque votre collègue, Madame Sonia Rollet,
a posé la question au chef des missions de l'OIF, le général Siaka. Il lui a demandé si ce fichier électoral, on pouvait... ce fichier électoral pouvait répondre aux aspirations du peuple congolais. Et à ces messieurs de répondre que ce fichier électoral est inclusif, il est exhaustif, il est actualisé, mais perfectible. C'est ce qu'il a dit, perfectible. Mais c'est comme toute, c'est la nature humaine, elle est perfectible. Voilà un peu sa réponse. Et à lui de dire, évidemment, il y a 16,6% des électeurs dont les cartes ne portaient pas les empreintes digitales. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce monsieur répondra comme ceci, messieurs les journalistes, que sur le plan juridique, en République démocratique du Congo, l'absence des empreintes digitales ne met pas en cause la validité de la carte d'électeur. Vous voyez? Ne met pas en cause la qualité de la validité de la carte d'électeur. Donc, nous irons aux élections avec ces 16,6% d'électeurs dont les empreintes digitales ne sont pas marquées sur leur carte. Mais, comment contourner cette histoire? Il a encore répondu, le général, le chef des missions de l'OIF, parce que les Congolais, certains Congolais veulent que ceux qui parlent d'autres pays viennent de l'extérieur pour qu'ils puissent accepter. Il a dit, l'affichage des listes provisoires des électeurs pour soumettre ces listes au contrôle populaire, c'est la meilleure façon de vérifier ces listes d'électeurs. Voyez-vous? Tout est clair.
Et donc, pour vous, malgré ces inquiétudes, en un mot, il faut aller aux élections.
Il faut aller aux élections.
Merci. Professeur Sambo Kolombe, vous êtes député national de l'opposition et cadre de la plateforme Ensemble pour le changement. Comment vous analysez cette démarche de la CENCO?
La démarche de la CENCO s'inscrit dans la droite ligne des travaux qui leur avaient été confiés, dialogue au niveau des acteurs politiques. Et aujourd'hui, ils sont en droit d'en assurer le suivi, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, comme ils l'ont eux-mêmes exprimé dans leur plaidoyer que vous appelez plaidoyer de la CENCO. Pour moi, c'est pas un plaidoyer de la CENCO, c'est un plaidoyer citoyen, d'autant plus qu'il fait le topo de la problématique du processus électoral actuel. Ce plaidoyer citoyen relève toutes les préoccupations des Congolais par rapport au processus électoral qui, aujourd'hui, nous paraît opaque et pas à même de nous conduire aux élections, au scrutin transparent et crédible et inclusif. Donc, j'applaudis cette démarche effectuée auprès des personnes qui sont en première ligne difficultés qui peuvent, disons, de première ligne, donc des pays qui peuvent être gravement impactés par un processus mal engagé et mal conduit et qui risque aussi de mal aboutir au niveau de la RDC Congo. Ils sont en première ligne, ce pays de la SADC. Donc c'est dans l'ordre des choses, c'est normal, c'est légitime qu'ils soient en premier lieu contactés par la CENCO.
Alors vous parlez, autant que les évêques, d'un processus électoral opaque. Pour vous, qu'est-ce qui fait que ce processus soit opaque?
Mais vous avez lu les faiblesses de ce processus tel que relevé dans le plaidoyer citoyen de la CENCO. Lorsqu'on vous parle de plus ou moins 30% d'électeurs inscrits sur les fichiers électoraux qui n'ont pas d'empreinte, c'est-à-dire 30% d'électeurs suspects. On ne peut pas parler de transparence. J'ai entendu le collègue dire que c'est perfectible. Mais écoutez, puisque nous en connaissons les faiblesses, pourquoi ne pas les parfaire? Pourquoi ne pas nettoyer? Il faut aseptiser ce fichier, n'est-ce pas? Il faut en extirper ces suspects. Et je ne pense pas que l'affichage des listes soit même de résoudre le problème. Puisqu'il n'y a pas de référentiel, dites-moi. vous affichez chez moi à Bazankoussou. Et dites-moi, par rapport à quels éléments, moi je peux dire que tel est suspect, tel n'a pas d'empreinte et tel est régulièrement enregistré, enrôlé. Non, ça pose problème. Et puis cette histoire de machine à voter. La machine à voter ne pose pas qu'un problème de transparence. Au-delà de la question de transparence, puisque d'après certains observateurs, ce sont des machines qui peuvent catalyser la fraude. Mais au-delà de cette question de fraude, il se pose un problème psychologique même, de maniement de ces appareils. Vous allez dans l'arrière-pays, puisque 60% de nos électeurs habitent l'arrière-pays. Il y en a qui n'ont jamais touché à un écran tactile. Et c'est pour la première fois que vous allez voir ces personnes entrer en contact avec l'écran tactile. Vous pensez que ça va se passer sans casse? Si quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, du haut de son instruction, a pris 6 minutes, n'est-ce pas, pour voter devant le président Nanga. Si Nanga lui-même a pris beaucoup de temps pour voter, dites-moi ce qu'il en sera d'une maman qui habite Ifomi le Kokoloko, vous n'en avez aucune idée. D'une maman qui habite Bosongomo, vous n'en avez aucune idée. N'est-ce pas? Donc ça pose d'énormes problèmes qu'il faut résoudre.
Alors, honorable Bokolombe, la SENCO continue à demander la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore valable?
C'est encore valable. C'est un référentiel valable, et s'agissant de certains aspects, notamment les aspects de la sécurisation du processus électoral, la décrispation. Il y a des gens qui sont en prison et qui ne méritent pas d'y être. C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a ce phénomène que vous observez des restrictions de l'espace démocratique. N'est-ce pas? Des gens qui sont arrêtés arbitrairement, emprisonnés. Il y a les jeunes de la Loucha qui sont arrêtés, hein, les jeunes mouvements citoyens qui sont arrêtés, qui sont inquiétés. C'est des histoires qui peuvent trouver solution dans le cadre de la mise en œuvre stricte, dans le cadre de l'observance de cet accord de la SENCO.
Honorable Manara a estimé que tous ces problèmes pouvaient trouver solution en interne et qu'on n'avait pas besoin d'en parler à l'extérieur.
En interne, le processus est verrouillé. Le processus est verrouillé. La SENCO, la CENI se comporte aujourd'hui comme une structure des stratégies électorales du pouvoir, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas résoudre ce problème en interne. Ce qui a été fait en interne l'a déjà été. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on aille contacter d'autres personnes. Et lorsque j'entends le collègue parler de la souveraineté, donc moi je crois que il devrait, au niveau de la Kabylie, on doit revoir cette notion de la souveraineté. Donc c'est très important, puisque la souveraineté, c'est pas ce qu'ils pensent eux. La souveraineté, c'est aussi se conformer au droit international. La souveraineté ne suffit pas pour un État de faire ce qu'il veut, ce qu'il entend faire.
Merci, professeur.
Voilà.
Monsieur l'abbé Donatien Cholet, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. La démarche de la SENCO est à saluer. À y regarder de près, de manière implicite, la SENCO veut montrer à la Coupe du Monde qu'elle a complètement échoué au niveau national. À cet effet, il faut nécessairement recourir aux offices de la communauté internationale, en commençant par ceux de la SADC. En clair, par cette démarche, la SENCO cherche à convaincre la SADC et peut-être plus tard toute la communauté internationale à pouvoir exercer une certaine pression sur la majorité présidentielle pour que le processus électoral ne soit pas un fait privé de celle-ci, mais plutôt une affaire de tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité, afin que la CENI parvienne à organiser les élections libres, transparentes et surtout à tenir en RDC à la date du 23 décembre prochain.
Monsieur l'abbé Cholet.
Eh bien, c'est une lecture que je ne partage pas dans la mesure où la SENCO a toujours travaillé à l'interne comme à l'externe, considérant la configuration politique mondiale aujourd'hui. On est à l'heure de la globalisation, de la mondialisation. On n'est pas dans un ghetto. Le problème ce n'est pas seulement la SENCO, même le gouvernement a le signe de partenariat, de convention, de contrat avec les étrangers. Ce n'est pas qu'on est faible, on a échoué, on peut avoir besoin de l'autre. J'ai saisi la parole qui m'a donnée pour rassurer l'honorable, la majorité, qui me fait dire apparemment ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il y aura la casse. Je parle en termes de si. Et la CENCO ne refuse pas la machine à voter. La CENCO demande qu'on ait un consensus. La CENCO a même proposé la voie comment on peut arriver à ce processus. Et la, c'est la voie de la sagesse. C'est ça la responsabilité. Vous avez entendu, vous avez lu aujourd'hui la déclaration de l'opposition, comment ils ont conclu. Ce sont des gens aussi qui adhéraient. Donc, ce sont des hypothèses. La CENCO veut prévenir. Donc, c'est encore possible d'avoir des élections paisibles, inclusives, transparentes et apaisées. Et les propositions, les recommandations que la CENCO font, c'est justement dans ce sens-là. Nous croyons que c'est encore possible. Nous croyons que autour des experts internationaux avec les experts nationaux, on peut trouver un consensus autour de cette machine. C'est ça la responsabilité.
Monsieur Labbé, ce consensus autour de la machine à voter est-il possible, est-il vraiment possible du moment où la CENI a commandé un très grand lot de ces machines qui doivent arriver dans les prochains jours?
Ben, je crois que la paix n'a pas de prix. S'il sera établi que l'alternative va rassurer la paix, je crois qu'on peut relativiser. Mais c'est encore possible que, en tenant compte de tous ces paramètres, qu'il y ait des recommandations qui fassent qu'on évolue dans le bon sens.
Vous demandez aussi que la SADC puisse faire pression pour qu'on recourt au bulletin papier. Est-ce que cela ne va pas entraîner un report des élections?
Non. Là, je n'ai pas dit pour qu'on reporte. Non. C'est au cas où il n'y a pas de consensus, qu'on recourt sur le papier. Et dans le calendrier électoral, c'était prévu l'impression des bulletins de vote au mois de septembre. Nous y sommes. Et ce n'est pas aujourd'hui que les évêques ont commencé à parler. C'est depuis des mois que les évêques parlent. Donc c'était encore possible. Donc on n'attribue pas aux évêques l'intention de vouloir encore un glissement. Non, bien au contraire.
Alors, quand vous demandez également que la SADC appelle la CENI à la clarification des cas des personnes enregistrées dans les fichiers électoraux sans empreinte digitale, au niveau de la CENCO, qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait carrément supprimer ces personnes ou qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, je crois que la solution est en train d'être trouvée si la CENI continue dans ce sens-là. On a salué le début de l'affichage de la liste des enrôlés, c'est ça l'audit citoyen. Donc si on peut vérifier dans là où il y a des doutes que les personnes affichées, quand bien même ils n'avaient pas d'empreinte, que c'était des personnes qui existent effectivement, je crois que l'opposition devra être raisonnable. Il y a lieu de vérifier et on n'a qu'à vérifier.
Merci, Monsieur l'Abbé. Honorable Didi Manara, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Katamate pour Lubumbashi, dans la province de Katanga. Je crois que le plaidoyer de la CENCO auprès de la SADC est une part à saluer, d'autant plus qu'il va dans le sens à préserver les acquis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais la CENCO, qui aurait fait 90% du travail pour sortir cet accord, devrait rentrer auprès du chef de l'État pour exprimer sa préoccupation. Lui étant garant des bons fonctionnements des institutions du pays. Je pense que tout ce qui se dit autour du processus électoral est tout simplement une crise de confiance entre Congolais et manque de la volonté politique de ceux qui sont aux commandes.
J'ajoute cette réaction de Gabi Yagi Foi de Kikwit qui dit ce qui est déplorable, c'est que la CENI et la justice se comportent comme des joueuses d'une équipe de football dénommée majorité présidentielle dont l'une joue le rôle défensif et l'autre offensif, c'est-à-dire la CENI défend, la justice entérine ce que la CENI a défendu. Honorable Manara.
Non, merci beaucoup de la question. Je salue encore une fois Monsieur l'abbé Donatien. Je crois que le premier intervenant de Lubumbashi, il a parlé entre les lignes de la souveraineté. Il a demandé aux évêques d'aller revoir encore le président de la République. Et, monsieur le journaliste,
en interne, parfois, c'est verrouillé, a dit l'honorable Bokolombe.
Non, c'est en interne. Cette question, je suis navré, tout à fait estomaqué lorsque les Congolais, à un niveau le plus élevé que ce soit, qu'ils parlent de la souveraineté d'une manière si légère. Vous savez, messieurs les journalistes, nos héros nationaux, Emery Patrice Lumumba, Musée Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts pour défendre cette souveraineté. Mais pourquoi est-ce que les Congolais parlent ainsi légèrement de cette affaire? Et même le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, l'homme que nous appelons le père de la démocratie, mais il vient de prouver à la face du monde que c'est vraiment un grand homme en désignant son dauphin, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadary. Aujourd'hui, toute l'opposition a peur, tremble parce que ça sera Shadary, notre futur président de la République. Parce que toute la majorité est derrière lui.
Avec une CENI et les cours des tribunaux manipulés comme le craignent les évêques.
La CENI et la justice, les deux structures citoyennes, ne sont pas manipulées. Je vous donne un exemple. Regardez, la CENI a écarté beaucoup de candidats. Je vais prendre les députés, candidats députés nationaux et provinciaux. Mais c'est au sein du FCC, au sein de la majorité présidentielle, que le coup a été très dur. Il y a eu beaucoup plus de candidats, membres de la majorité et du FCC, qui ont été écartés que ceux de l'opposition. Et là, on ne parle pas. On ne parle pas de la loyauté de la CENI, non, on ne parle pas.
Et à l'opposition, on a dit qu'elle est gros poisson.
Et la justice, quel gros poisson en politique? Ce sont les élections. Lorsqu'il y a une loi. Vous voyez, nous n'évoluons pas dans une république bananière, messieurs les journalistes. Et même, lorsqu'on parle des enrôlés, mais il y a une loi qui règle tout ça. Il y a une loi, monsieur le professeur. L'article 40 de la loi portant enrôlement et identification des électeurs dispose de ceci. Que toute personne qui s'estime lésée à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement peut, en dehors 7 jours qui suivent l'affichage des listes des électeurs, adresser par écrit ou par déclaration actée sur procès verbal son recours au président du centre d'inscription. La loi est là. S'ils sont lésés, ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à saisir les instances. Mais pourquoi est-ce qu'on doit aller à gauche, à droite, aller à la SADEC, aller je ne sais pas moi où, demain ils iront où? Je ne sais pas. La justice, mon frère, la justice, la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle aujourd'hui, nous devons la respecter. Nous devons apprendre à respecter nos propres institutions, si nous voulons qu'on puisse nous respecter. Et les statuts en dernier ressort, les gens qui ont été frappés ont enfreint à la loi, c'est tout.
Honorable Manara, pour vous, l'accord de la Saint-Sylvestre est encore valable?
Elle est très valable. Vous savez, lorsque nous passions il y a une année, il y a deux ans, devant votre chaîne ici, les gens ne parlaient que du troisième mandat du président de la République. Maintenant, ils n'en parlaient plus. Parce que le président Kabila leur a prouvé le contraire. Il n'en parle plus, messieurs les journalistes, vous êtes au courant. Je crois que vous êtes conscient de ça. Il ne parlait du matin au soir, il disait que, il y a même des gens qui disaient, je donne ma main à couper pour que si le président ne se représente pas, il donne leur main ici, nous allons les couper toutes.
Merci. Professeur Sambo Kolombe, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Emmanuel Muyumba depuis Kisangani. Les déclarations des évêques sont nobles mais désorientées. Ces éminents devraient comprendre que l'heure n'est plus à pleurnicher ailleurs. Le combat se fait désormais interne dès lors que l'extérieur a déjà avoué son impuissance. À quand l'application du fameux slogan du dictateur plan B? Ne comprennent-ils pas même quand le gouvernement dit tout haut ne pas être disposé à recevoir des leçons? Je pense qu'ils savent bien. Ils ont tous les moyens qu'il faut pour pousser ce régime à se plier, notamment par appel à des manifestations généralisées. N'en faisant pas usage, cela trahit leur complicité. Pour tout dire, on n'en serait plus là si ce prélat ne nous aurait pas endormis négociant avec ce groupe. Comment justifieriez-vous que quelqu'un qui a une bombe à grande portée recule pour solliciter un pistolet?
J'ajoute cette réaction de tonton Albert Tambola de Lissala qui dit « Je trouve que la démarche entreprise par la SENCO n'aura aucun effet sur ce qui se passe au pays actuellement, d'autant plus que dans un passé récent, ils n'ont pas réussi à entamer, à enclencher le plan B qu'ils avaient promis au peuple congolais dans l'hypothèse où l'accord ne serait pas respecté, professeur. »
Là, vous parlez de plan B. C'est pas l'opposition qui a parlé du plan B, c'est la SENCO. Et puis, nous sommes pas...
Et en son temps, l'opposition a soutenu ce plan B.
Oui, nous l'avons soutenu.
Mais, sans le connaître.
Mais justement, il n'était pas découvert. Moi, je voudrais relever cet élément qui est très important. Cette démarche de la SENCO n'est pas inutile, telle qu'orientée vis-à-vis de l'extérieur. Pourquoi? Parce que toutes les secousses d'un processus mal mené ici peut réjaillir, donc toutes ces secousses-là peuvent réjaillir sur les voisins. C'est normal, qu'ils soient prévenus de tout ce qui pourrait arriver ici au cas où ça ne marche pas bien. Ils ont un moyen de pression ici, n'est-ce pas, sur le régime actuel. Et cela n'exclut pas la marge de manœuvre de l'opposition. L'opposition qui s'est réunie vient de lancer, disons, de faire passer un communiqué conjoint où elle reprend ses préoccupations, ses préalables au cas où le processus était conduit tel qu'il est maintenant. Donc, on ne peut pas s'en prendre à la SENCO de faire ce qu'elle est en train de faire au motif qu'elle aurait échoué et qu'il n'y aurait plus de marge de manœuvre en interne. Il y a toujours moyen de manœuvrer, il y a toujours moyen de négocier, mais recourir aux voisins, ça peut aider dans la marche de ce processus. Moi, je voudrais encore insister sur ce fait que le Congo ne vit pas en vase clos. Nous sommes dans un village mondial où les gouvernements, les États, les peuples interagissent.
Professeur, voilà. À l'allure où vont les choses, croyez-vous à un accord sur la machine à voter?
Ben, j'ai entendu le collègue dire on va aller avec la machine. Moi, je dis on n'ira pas aux élections avec la machine.
C'est quoi l'issue?
L'issue, c'est la mise à l'écart de cette machine qui pose problème, n'est-ce pas? De cette machine qui va catalyser la fraude et la mise à l'écart de ces plus ou moins 10 millions d'enrôlés suspects. On ne sait pas aller au scrutin alors avec ce genre d'imperfections, puisque tout le monde reconnaît, et le collègue vient de reconnaître que le fichier est perfectible, que le processus est perfectible, mais puisque nous reconnaissons que c'est perfectible, on ne va pas y aller, on corrige, n'est-ce pas? Avant d'avancer, pour moi, c'est vraiment un préalable. Quoique pour l'opposition, c'est aussi un préalable.
La CENI, professeur, vous le savez, a dit pas de machine à voter, pas d'élection.
Ben écoutez, lorsque vous lisez le calendrier électoral, et on ne parle pas de machine à voter. Bon, je ne sais pas comment l'issue que la CENI voudrait se réserver par ce principe de pas de machine à voter, pas d'élection. Là, la CENI qui s'est fait l'écho de la majorité présidentielle voudrait trouver des prétextes peut-être pour prolonger les scrutins, disons les délais du scrutin comme d'habitude.
Monsieur l'abbé de l'Ancien Cholet, il y a Kairi Matembera qui nous écrit de Kalemi dans la province du Tanganyika qui dit la démarche de la SENCO n'est pas mauvaise mais selon moi c'est un projet à long terme car ce pouvoir ne peut jamais organiser les élections pour les perdre. Je pense qu'il faut une courte transition dirigée par une équipe neutre à politique sans aucun membre du gouvernement pour nous amener aux élections libres et apaisées, donc une transition électorale et non politique, M. l'abbé?
Ben, c'est un point de vue qui n'est pas celui des évêques. Pour les évêques, c'est encore possible s'il y a volonté politique. Eh ben, si, de facto, on arrivait à une situation comme ça, on arrivait à ce que les évêques veulent éviter, ben, en ce moment-là, on reconsidérera les choses, mais les évêques veulent demeurer cohérents par rapport à ce qui est prévu dans la Constitution, dans l'accord la Saint-Sylvestre.
Alors, dans le communiqué des évêques, il est dit, si les questions soulevées ne trouvent pas de bonnes réponses, nous risquons soit de ne pas avoir les élections le 23 décembre 2018, soit avoir des élections biaisées dans l'un ou l'autre cas. Faute d'élections crédibles, inclusives et apaisées, la RDC risque de basculer dans la violence, voire dans le chaos qui peut embraser toute la sous-région des Grands Lacs. Vous avez suivi l'honorable Manara affirmer ici que les élections auront bel et bien lieu et qu'il n'y aura rien.
C'est tout notre souhait que les élections aient lieu, qu'il n'y ait rien. Pour que les élections aient lieu, qu'il n'y ait rien, alors il faut que ce soit crédible, transparente, inclusive et apaisée. Pour que ce soit transparente, crédible et apaisée, il y a des conditions pour ça. Les évêques recommandent simplement de mettre en place, de respecter les conditions qui nous amèneraient à cela, c'est tout.
Alors, quel message, M. l'abbé, vous pouvez adresser à la classe politique à ce niveau du processus électoral, majorité comme opposition?
Voilà, donc les évêques n'ont aucun intérêt par rapport au pouvoir. Donc, ils ne sont pas attirés par le pouvoir politique. Donc, on a intérêt à les écouter parce que ils ne sont ni à gauche ni à droite. Alors, qu'on prenne au sérieux les recommandations parce que elles ne visent que l'organisation des élections qui mettrait fin à la crise. Donc, qui ne veut pas écouter cette voix de la sagesse ne veut pas la paix, n'aime pas ce pays.
Merci, Monsieur l'abbé Donatien Chollet. Honorable Madara, je vous vois sourire. Quelle est votre réaction?
Non, bah, écoutez, je crois que Monsieur l'abbé Chollet et tous nos évêques auraient mieux fait de prier pour la République démocratique du Congo.
Simplement.
Et d'avoir des pensées positives. Des pensées positives pour ce pays. Et non dire des problèmes, des phrases comme on peut casser. Il y aura le chaos.
Mais ils attirent l'attention de la classe politique.
Non. Laissez-moi parler. Donc, il faut avoir des pensées positives pour ce pays. C'est très important que de lancer des phrases de nature à inciter, je ne sais pas moi, quelle sorte de trouble au pays. Donc, moi j'aimerais encore insister. Vous savez, en 2006, aux élections de 2006, les opposants disaient quoi? Que le stylo était très dangereux. Ils ont refusé d'aller voter avec le stylo. Vous vous rappelez, monsieur le journaliste? Ils ont refusé de voter avec le stylo. Mais maintenant, c'est la machine à voter. Mais comment est-ce que nous allons voter? Moi, je ne sais pas. On leur propose le stylo, ils refusent. Maintenant, c'est la machine à voter, ils refusent. Donc, et la CENI est la seule institution citoyenne à avoir comme attribution de pouvoir désigner le mode de vote. Donc, nous tous, nous sommes en train de spéculer, mais la CENI a dit, vous l'avez dit aussi, que nous irons voter avec la machine. Et ça sera fait ainsi. Nous, au niveau de la majorité, au niveau du Front commun pour le Congo, nous sommes prêts de voter notre président de la République, honorable Ramazani Shadari, comme président avec la machine à voter, et tous nos députés provinciaux et nationaux avec cette machine. Il n'y aura rien.
Et en guise de conclusion, honorable,
j'appelle tous les peuples congolais, toutes les dames, tous les messieurs, tous nos enfants qui ont l'âge de voter, qui ont des cartes, d'aller voter le 23, ça sera un vote normal,
merci,
pacifique, et c'est la majorité présidentielle,
merci,
derrière Joseph Kabila Kabange.
Merci. Professeur Sambo Kolombe, comment vous entrevoyez la suite du processus politique et électoral?
J'aimerais d'abord constater ici que vous m'avez opposé un interlocuteur qui est fort en propagande politique. Moi, je crois qu'il était question de parler du processus électoral. Comment j'entrevois la suite du processus? Nous voulons aller aux élections, mais pas à n'importe quelles élections. Nous voulons aller aux élections qui soient transparentes, crédibles, inclusives, et à des élections où il n'y aura pas de machines à voter, à des élections avec un fichier électoral sain, aseptisé, où il n'y aurait pas d'enrôlés et suspects. Et nous disons ceci, nous voulons aller à des élections qui soit surveillé
en interne, par qui?
En interne comme en externe, puisque nous ne vivons pas en vase clos, nous ne vivons pas dans un espace fermé, dans une tour d'ivoire. Le Congo est un pays ouvert et nous voulons que les choses soient transparentes. Nous allons aller aux élections, mais
merci,
pas à n'importe quelles élections.
Merci, monsieur l'abbé Donatien Chollet. Juste un mot pour terminer.
Nous espérons que les uns les autres reviendront à la raison pour qu'on aille le 23 décembre les élections qui me sortiraient de la crise.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.